un étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille.
Bonsoir, c'est bienvenue sur Radio B dans la toute nouvelle émission consacrée à l'écriture, roman de gare. Un jeudi sur deux, je vous propose de retrouver une autrice et un auteur, auditrice aussi. Nous parlerons de son livre et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Alors pour cette première émission de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'autrice Mathilde Duchozal dans le premier roman Lettre anonyme de Villebrune, est paru le 7 septembre 2023 aux éditions TOT. Je vais y arriver. Mathilde, bonsoir.
Rebonsoir.
Oui, parce qu'elle était avec
et
toi
oui,
avant.
J'étais l'émission juste avant, donc voilà. Je suis toujours là sur Radio B.
Donc, tu préfères le mot autrice, auteur, écrivaine ou romancière lorsqu'on te présente?
Eh bien, c'est vrai que tous ces mots-là me vont, mais j'ai pris l'habitude de dire autrice, ouais. Même si ce n'est pas facile de se reconnaître dans ce mot-là quand on vient tout juste d'avoir son premier roman de sortie. Mais romancière, je crois que oui, j'aime bien aussi. J'ai entendu ça récemment, on m'a dit romancière, alors pourquoi pas ouais.
Alors bien, sur Radio B, tu animes depuis septembre 2022, il me semble, le pas de côté de l'actualité. Une chronique sur un sujet d'actualité traité de matière décalée. Mais j'imagine que tes goûts pour l'écriture et la lecture ne datent pas de tes débuts à Radio B, évidemment. À quand remontent tes premiers écrits et tes premiers souvenirs de lecture?
Ah, c'est deux choses différentes. Alors, mes premiers souvenirs de lecture, mais très tôt, je ne sais pas, on apprend à lire au CP, donc je pense dans ces eaux-là, même si voilà, je n'étais pas là. Très forte en lecture au CP, mais ça a dû arriver un peu après, CE2, CE1. Et j'ai vraiment, à l'adolescence, lu beaucoup, beaucoup de livres. Moi, je suis une grande consommatrice de livres, toujours, mais malheureusement, pas autant que je voudrais. J'ai ma pile qui s'amoncelle à côté de mon lit, bien plus vite que je ne lis.
Ta pale, comme on dit.
Oui, voilà.
Chez les pros de la lecture. La pile à lire. Hein.
Voilà.
Des fois, c'est une palette. Hein.
Voilà. Oui, j'ai peut-être des palettes. Dans ma bibliothèque, en tout cas, il y a encore plein de livres que je n'ai pas lus, d'autres que j'ai vraiment hâte de lire. Et tous ceux que j'en commence des fois un ou deux en même temps. Mais...
Voilà.
Donc voilà, donc, grande consommatrice, évidemment. Donc
ça, c'est une manière de lecture, mais d'écriture.
Et écriture, je n'ai pas commencé si tôt que ça. Car pour moi, pour écrire, il fallait être écrivain, autrice, romancier.
Ah bon?
Oui, voilà. Et je trouvais ça, c'était un peu très glorifiant. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de très important d'être écrivain. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit qu'il écrivait. Et j'ai trouvé ça super. J'ai lu ce qu'il écrivait. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, pourquoi pas, moi aussi. Tout le monde peut écrire. Vraiment, j'encourage tout le monde à écrire quand ils veulent. Des petits textes, des grands textes. C'est vraiment un grand plaisir. Donc, j'ai commencé, je pense, il y a juste 5 petites années. Mmh. Voilà. Au début, des petites histoires que j'allais au bout. Donc, ça s'appelle des nouvelles. J'ai essayé aussi un peu de poésie. Et un jour, une histoire que j'ai continuée, jusqu'à en voir plus d'une centaine de pages, où je me suis dit, mais ça ressemble à un roman, finalement, d'en avoir écrit autant sur cette même histoire.
Mm-hmm. T'as toujours aimé raconter des histoires?
Ah, ça toujours, par contre. Oui, à mes enfants, j'ai inventé beaucoup d'histoires. Et puis, dans le cadre de mon travail, vraiment inventer, créer des personnages, jouer avec ces personnages-là, c'est quelque chose que j'adore fondamentalement, vraiment.
Ton écriture est influencée par quelle autrice, quels auteurs, quel genre de littérature?
Ah, alors sans paraître, je sais pas, prétentieuse, moi vraiment j'adore la littérature du 17e, 18e siècle. Par exemple Colette, George Sand, Maupassant, leur style d'écriture comme ça, je trouve ça magnifique. Et j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors de l'être influencée par ces auteurs-là, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un siècle que j'ai beaucoup lu et du coup, voilà. Alors peut-être que de l'être influencée, vraiment Colette qui a une écriture, je trouve... très, très simple et à la fois pleine d'humour. Vraiment, je me suis beaucoup inspirée de certaines descriptions qu'elle a pu faire, des dialogues très vivants. Donc voilà, je pourrais peut-être citer cet écrivain-là.
Tu aimes, tu aimes toujours voyager à travers les livres et l'écriture, par contre?
Ah oui, bien sûr. Oui. Voyager, partir à la montagne, au bord de la mer, partir dans un village en plein centre-ville. Voilà, partir à New York, partir à Toronto et là à Montréal, voilà, ou au Népal, c'est la magie de l'écriture, ça.
Ouais. Donc, tu as écrit pendant une dizaine d'années donc, des nouvelles, des contes, Donc, alors pourquoi qu'est-ce qui fait que... Bon, t'écris des pages, et pourquoi on en vient à un roman, finalement, quoi?
Eh bien, alors, du
parce
coup, oui...
T'aurais pu t'arrêter au bout de 100 pages, ou dire, t'as fait une grande nouvelle, mais sans forcément un roman
Eh bien, en fait, ça fait qu'à un moment, une part dans ma vie, j'ai eu du temps. Deux fois, d'ailleurs. Pendant ma deuxième grossesse, j'ai eu du temps, et ensuite, il y a eu un confinement, en 2020, et j'ai de nouveau eu du temps. Et quand on a du temps, on peut développer des histoires. Alors que quand on a sa vie de tous les jours, on court tout le temps, ben on fait des histoires un peu courtes parce qu'on essaye d'arriver au bout en une dizaine, vingtaine de pages. Mais voilà, le fait d'avoir eu du temps, j'ai pu développer jusqu'à ce que ça ressemble à un roman, finalement.
Attends, tu voulais écrire un... Enfin, je ne sais pas si tu voulais d'ailleurs écrire un roman qui se rapproche de plus de quel genre d'aventure? Policier, suspense, historique, social
Eh bien, je ne crois pas que j'avais réfléchi à ça avant.
On réfléchit pas.
Non, en tout cas, moi, je ne réfléchis pas. Je sais pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont des... Je crois qu'il y a des auteurs qui ont des plans, des trames avant qu'ils écrivent toutes leurs trames jusqu'au bout, jusqu'à la chute. Et comme ça, ils savent où ils vont. Mais moi, pas du tout. Le matin, je me réveillais. Donc là, je parle pendant le confinement, comme j'écrivais vraiment tous les matins. Et eh bien, je ne savais pas ce qui allait se passer dans mes pages, comment mes personnages allaient évoluer. Vraiment, c'était...
Ah ouais.
Et c'était une grande liberté que j'adorais ça, de dire, allez, qu'est-ce qui vont leur arriver aujourd'hui?
Donc, tes personnages, les lieux n'étaient pas forcément présents dans ta tête
On a la trame, on sait où ils sont, on sait où ils en sont. Voilà, les personnages autour d'eux, les proches, les familles, ça, je construisais. Mais voilà, une petite aventure ce jour-là. Il y a des choses que j'ai pas tout gardé, évidemment. Mais cette grande liberté d'écriture, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Vraiment, cette notion aussi que c'est un vrai plaisir de s'asseoir devant son ordinateur et dire, tout est possible. Je peux créer l'histoire que je veux.
Ouais. Alors justement, peux-tu nous raconter brièvement l'histoire de Lettre anonyme de Villebrune?
Lettre anonyme de Villebrune, c'est une histoire qui se découpe en trois parties parce que je l'ai un peu construite sous forme de trois nouvelles, comme c'est ce que je savais faire, des nouvelles. Donc la première histoire, on va dire, c'est Martha, la trentaine à peu près, qui reçoit une lettre un matin. Donc ça se passe, tu l'as dit, à la fin du 19e siècle, dans le nord de la France, une femme très seule qui vit dans son appartement. Mais cette lettre a pris l'eau, donc elle n'en voit plus grand-chose, la signature notamment a pris l'eau, elle voit « Rejoins-nous », elle voit quelques mots, elle voit bien que c'est à elle que c'est adressé, et ce mot « Villebrune », qu'elle ne sait pas ce que c'est. Après quelques recherches, elle trouve que c'est un village au Québec, et elle qui habite au nord de la France, qui n'a jamais sorti de son département, se dit « voilà, quelqu'un du Québec m'a écrit ». Donc ça a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, ça on verra dans l'histoire, mais elle arrive quand même à se dire « si quelqu'un m'attend quelque part, j'y vais ». Donc ça c'est la première intrigue. Et une fois évidemment qu'elle est là-bas, elle rencontre d'autres personnages qui, eux, ont leurs propres intrigues, notamment Gaspard. Lui, il y a son frère qui est décédé, noyé, et il est persuadé que ce n'est pas possible qu'il ait eu un accident, parce que c'était le meilleur nageur de la famille, c'était une fratrie de cinq frères, le plus jeune, le plus vigoureux, et que s'il est mort noyé, c'est que quelqu'un l'y a aidé, on va dire. Et ensuite, un troisième personnage qui fait ma troisième nouvelle, mais ça se suit tout chronologiquement, ça se suit autant géographiquement que dans le temps. C'est Sarah, une très jeune montréalaise qui habite à Montréal, qui vient d'avoir un bébé. Et voilà, elle aussi, dans sa vie conjugale et sa vie avec ce bébé, il va lui arriver plein de choses. Mais à chaque fois, et Martha et Gaspard reviennent tout au long de l'histoire, ce qui fait que ça fait un roman qui est très lié au niveau des caractères. Et chacun leur caractère, mais aussi de leur propre histoire, leur propre destinée qui sont liées tous les trois, jusqu'à ce village de Villebrune qui revient aussi tout le temps.
Alors, pourquoi avoir choisi la fin du 19e siècle pour ton roman?
Et ça, c'est vraiment un choix très actif de ma part. C'est que je voulais, avant la révolution industrielle, avant le plastique, avant Internet, avant toute cette modernité, on va dire, je voulais être délaissée de tout ça. Pas de voiture, pas d'avion... Et surtout, vraiment, le pas de téléphone portable. Donc ça, je pouvais me décaler encore un peu dans le temps, mais je suis allée avant, avant le pétrole, avant le plastique.
T'as eu besoin de te plonger dans l'histoire de cette fin du 19e siècle où les conditions de vie étaient tout autres qu'aujourd'hui. Tu t'es documenté comment, alors?
Alors là, j'ai lu aussi autant des romans qui se passaient au Québec par des auteurs québécois de ce siècle-là, donc dans le langage québécois de l'époque. Ça m'a beaucoup aidée pour les dialogues. Et beaucoup d'articles aussi, en effet, quel métier pouvait exister chez les hommes, en ville, à la campagne, quelle façon, après cuisiner, ça j'avais un peu en tête, c'est à peu près pareil qu'en France, il n'y a pas plein de choses qui sont guère différentes. Mais oui, il y avait un vrai travail de recherche qui était passionnant, en effet, de se documenter sur cette époque-là.
Ouais, sans aller sur place.
Eh ben non, sans aller sur place, pas encore.
Donc Martha Lacroix, c'est l'héroïne principale de ton premier roman. En quoi elle te ressemble ?
Je crois qu'au tout début, en effet, c'est un personnage qui m'a ressemblé parce que, voilà, une jeune fille assez discrète, plutôt timide, qui fait pas trop de bruit, on va dire. Mais j'ai quand même vraiment grossi les traits, évidemment, hein, par rapport à moi. Voilà, ce personnage, à la fin, ne me ressemble plus par rapport à celle que j'ai écrite dans les premières lignes. J'ai vraiment tiré les traits dans ce caractère très discret, même un peu vide. Du coup, elle s'est un peu anesthésiée dans ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle peut vivre. Voilà. Mais du coup, l'histoire explique pourquoi.
Ouais. Alors, Martha Lacroix, ton héroïne, est une femme, même si l'on suit également les aventures de Gaspard et Sarah. C'est plus facile pour s'identifier et écrire que ce que ressent Martha d'écrire des histoires de femmes.
Eh bien, pas forcément, parce que je leur ai choisi à mes trois personnages un caractère très différent. Et Martha, c'était pas très saisissable, du coup, en effet, comment elle s'est retrouvée. Voilà. Enfin, il y a un lien entre le Québec et la France, hein, pour elle. Et du coup, son histoire, voilà, pourquoi elle est si seule, pourquoi elle ne s'est pas un peu perdue sur le chemin de sa vie sans se poser tant de questions. Donc c'est vrai que ce n'était pas si palpable que ça, le caractère de Martha. Elle n'est pas triste, mais elle est loin d'être joyeuse. Donc du coup, ce n'était pas forcément le personnage le plus simple finalement. Comparé à Gaspard, que lui, vraiment, un tempérament très colérique. Il est très, très en colère, mais en fait très, très souffrant, hein, par rapport à la mort de son frère. C'était presque plus simple, finalement, de décrire ce caractère-là, ce personnage qui sait où il va, qui tape du pied, qui tape du poing. Voilà. Et Sarah, qui est plus dans la mélancolie, elle, c'est vraiment un personnage qui est très déprimé. Bon, heureusement, il y a plutôt une... voilà, ça ne le reste pas. Mais c'est aussi un caractère qui était peut-être encore... Voilà, je savais où aller, plus avec mes deux autres personnages que ce premier personnage, Martha Lacroix, qui est un peu perdue. Donc du coup, d'écrire sur un personnage perdu, on décide de ne pas se perdre avec elle.
Ouais. Alors, Martha vient du nord de la France, elle part au Québec. Alors pourquoi le nord de la France et pourquoi le Québec? Pourquoi pas, tu vas me dire, mais bon, pourquoi le Québec?
Ah, pourquoi le Québec? Eh bien, c'est un... Alors là, ça, c'est moi. C'est un pays, moi, qui me fait rêver. C'est un pays où j'imagine des forêts magnifiques, beaucoup de rivières, des montagnes. Voilà, les animaux là-bas, très nature. Et puis les gens me font rêver là-bas. C'est ce qu'on en dit, hein, parce que, encore une fois, je l'ai dit dans l'émission d'avant, je n'y suis encore jamais allée, mais c'est prévu. J'ai pris mes billets d'avion, j'y vais cet été. Mais l'accueil qu'on en dit, puis ce langage, moi j'adore les accents. Et l'accent québécois, c'est quelque chose à la fois me fait beaucoup rire et à la fois leurs expressions sont magiques. Donc c'était... voilà, j'ai allié les deux, la nature et ces personnages là-bas, que ça m'a vraiment plu d'emmener mon histoire qui traverse l'Atlantique.
Alors on sent, moi je trouve, la fibre féministe à travers ton premier roman. On est à la fin du 19e siècle, il y a cette envie de libération de la femme, puisque Martha est indépendante professionnellement parlant et n'hésite pas à franchir l'Atlantique alors qu'elle n'a jamais voyagé si loin. Tu es sensible à la place de la femme dans cette période?
Oui, énormément, même à la place de la femme, toutes les périodes, que ce soit moi de la préhistoire jusqu'à nos jours maintenant, hein, vraiment, la place de la femme est à se documenter, à écrire, à voir tout ce que les femmes ont subi et subissent encore. À cette époque-là, du coup, peut-être pas plus qu'à une autre époque, mais j'ai dû quand même réfléchir à comment une femme, en effet seule, qui n'a pas non plus des moyens financiers énormes, parce qu'elle est couturière, comment elle peut se dire « je traverse l'océan, en effet, toute seule ». C'était pas évident à faire que ça se déroule sans que ça soit un peu étonnant et un peu anachronique de par une femme qui part seule, en effet, pour un si grand voyage.
Ouais. On peut faire le parallèle avec le roman de Cécile Baudin, Marc de Fabrique, qui se passe dans l'Ain, à la même période.
Tout à fait, oui, Cécile Baudin, ça se passe dans la même période.
Par hasard, et dont l'héroïne est aussi une femme, inspectrice du travail en l'occurrence, donc indépendante professionnellement aussi. Pourtant, vous ne connaissez pas, elle n'est pas de la même génération. Bah, je trouve que ce parallèle est étonnant et surprenant. Là. Les deux livres, il y a quelque chose entre...
Oui, ça t'a parlé, toi.
Il y a quelque chose.
Oui, donc moi, je l'ai commencé, le roman de Cécile Baudin, Marc de Fabrique.
C'est aussi une histoire de femme, c'est des histoires de la place de la femme dans le monde du travail et dans le monde tout court.
Et oui, en effet, il y a beaucoup de choses qui résonnent entre ces deux histoires. Donc j'ai acheté son livre qu'elle m'a dédicacé, comme elle vient régulièrement dans la région, vu que ça se passe dans l'Ain, elle, son histoire, même si elle est de Paris, elle est parisienne. Et en effet, j'ai hâte d'avancer plus dans son roman parce que c'est la même époque, où on écrit toutes les deux.
C'est fou, hein?
Oui.
Ouais. Oui. Alors, en lisant ton roman, on apprend, tu disais, beaucoup d'expressions typiquement québécoises. On se dit que tu t'es bien amusé en les utilisant. Là, y a pas de... hein?
Ah oui, alors là, puis même, à cette époque-là, parce que c'est en 2020, donc du coup, comme je disais, le confinement, j'arrivais même presque à parler québécois.
Ah ouais?
Oui, je m'amusais beaucoup à dire aux gens, mais dommage que je n'ai pas fait LV2 québécois au collège, parce que ça m'aurait beaucoup plus servi. Mais on le perd vite, en fait. Mais voilà, à force de lire, d'écouter, on prend l'accent québécois, enfin, dans la tête, hein. Et en écriture, ça devient très fluide et très facile, en effet, d'écrire avec cette façon de parler québécoise. Que là, je pense que je ne pourrais plus faire.
Ah ouais?
Oui, parce que vraiment, je ne l'ai plus fait depuis 2 ans. Et...
voilà. Tu le feras cet été.
Tout à fait, ça me reviendra vite, peut-être.
Voilà. Alors, dans ton livre, on sent tout le poids d'une certaine misère de la fin du 19e siècle et de la vie très difficile de la plupart des gens, et en particulier les femmes. Donc, ce n'est pas un hasard si tu t'intéresses aux sciences humaines. Ton regard est plein d'empathie et de douceur, et ça se ressent dans l'histoire et l'écriture. Tes personnages sont un peu comme toi dans la vie?
Non, moi je galère moins que mes personnages dans la vie. Ma vie est beaucoup plus facile que la leur. On n'est pas à la même époque. Et puis,
dans l'esprit, dans la
oui,
façon
mais c'est
de
des
voir
personnages
choses,
oui, qui.
Oui, ils sont pleins d'empathie. J'ai pas le mot gentil parce que ça.
Non, c'est... mais voilà, c'est des personnages qui sont ni. Voilà, pas des gentils, c'est pas des méchants, c'est des êtres vivants qui souffrent quand même. Moi, ils sont. En effet, moi vraiment, ils me touchent ces trois personnages-là parce qu'ils n'ont pas des vies faciles. Autant voilà, au niveau même de leurs liens familiaux, autant de relations qu'ils ont, mais ils avancent et ils trouvent des solutions et ils s'accrochent aux uns aux autres et ils s'entraident. Et vraiment cette notion de l'humain vraiment que j'ai voulu au cœur de mon livre, je pense oui, moi j'ai vraiment une notion que je crois en l'humain et l'humain est un sujet d'étude qui m'intéresse, mais à la fois que pas d'étude, je vis avec des humains et j'aime ça, les humains. Ouais.
Non, c'est facile de ne pas sombrer justement dans le côté Zola sans trop s'apitoyer sur leur sort. Voilà.
Oui, alors sans comparer à Zola, il y a quand même quelque chose de... Moi, je suis plutôt quelqu'un de joyeux et d'optimiste, hein, donc je ne vais pas couler dans la misère humaine, dans les tréfonds de la dépression chez l'humain. Donc, il y a toujours des rebonds où ça se passe bien dans l'histoire.
Ouais.
À peu près, pour tout le monde, pas tous.
Alors, la couverture du livre est signée Marie-Claude Daniel. C'est la maison d'édition qui a choisi pour toi.
Alors du coup, c'est une aquarelliste de Grenoble. Mm-hmm. Et on a réfléchi ensemble avec la maison d'édition pour cette couverture. Et moi, ça me tenait à cœur que ça soit quelqu'un qui la fasse pour cette histoire-là. Pas qu'on prenne une image d'Internet. Et ils m'ont proposé plusieurs artistes qu'ils connaissaient. Et en effet, j'ai vu quelques œuvres de cette dame-là et je dis « Ah bah, si elle est d'accord, en tout cas, j'aimerais bien prendre contact avec elle et qu'on discute de mon histoire, si ça lui parle de faire une couverture sur les tons du Québec, donc beaucoup de rouge.
Ouais. » Bah oui. Alors, ton premier roman, tout à l'heure, dont je parlais d'un roman où la place de la femme est très importante. Alors, celles qui t'ont aidé à le préparer aussi, hein, puisqu'on retrouve Anne-Laure Clavel à la relecture et au conseil, Anne Aubertin à la correction et donc Marie-Claire Daniel à la couverture. C'est un pur hasard.
Alors ça, il faut vraiment voir avec l'éditeur. Est-ce qu'ils ont des correcteurs hommes?
Non, je sais pas.
En tout cas, c'est vrai que moi, c'est deux correctrices qui m'ont beaucoup aidée, donc beaucoup par message, beaucoup par mail, sur des corrections très pertinentes. Autant, donc vraiment figure de style, la pragmatique du langage, hein, les concordances des temps, ça prend du temps au niveau des corrections. Mais au niveau du sens aussi, hein, si ce personnage-là a pensé telle chose, page 28, comment ça se fait que page 132, il a un discours différent? Donc voilà, c'est en effet tout à raccorder. Et elles m'ont beaucoup aidée à mettre du sens sur la concordance du fond, en tout cas. Il y a la forme et le fond à corriger hein, dans un roman. Mais c'est un travail passionnant, hein, du coup, ouais. Vraiment.
Donc, quel regard, quand tu as amené ce livre, quel regard a porté ton éditeur sur ton roman avec...
ouais. Du coup, ils ont décidé de le publier, c'est qu'ils étaient... ça leur a beaucoup plu, cette histoire. Et cette façon d'avoir construit mon roman en trois parties, en trois nouvelles, ils avaient quelque chose quand même qui n'est pas commun, apparemment. Donc, je ne le savais pas, comme je ne sais pas comment on construit un roman quand on est auteur. Mais voilà, quelque chose qui leur a beaucoup plu dans le style qu'ils n'ont pas réussi à définir, si c'est un roman d'aventure, un roman historique, un roman même psychologique. Il y avait un peu de tout. Et à la fois, ils m'ont dit qu'il était très bien construit, très bien mené dans les intrigues. Il y a trois intrigues qui suivent. Hein. Il y avait vraiment une logique qu'on suit et qu'on est dedans directement. Et jusqu'au bout, en tout cas. Donc, j'ai eu plutôt des très bons retours de ma maison d'édition où il y a eu, d'après ce qu'ils m'ont dit, quand même peu de corrections, finalement.
Ouais. Ah ouais. Donc maintenant que ton premier roman est sorti, alors quel est le retour des personnes et pas seulement des 72 souscripteurs qui ont lu ton livre ?
En effet, je commence déjà à avoir des retours, hein, mais là, c'est beaucoup mes amis, ma famille, mes collègues. Mmh. Et du coup, que des choses très positives pour l'instant. Mais j'ai comme plusieurs retours qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé à continuer à poursuivre. J'ai une collègue quand même qui m'a dit « Ah, quand même, Mathilde, il faut que je te dise, il est trop court, on en attendrait plus. » Donc je l'ai pris, je l'ai bien pris, du coup.
Ça veut dire,
ouais, qu'elle l'a lu très vite, en une après-midi, ah, elle avait lu mon roman et...
Non, ça veut dire qu'elle attend la suite.
Eh ben voilà, mais hein, on me le dit, on attend une... voilà, la suite, mais...
Voilà. Donc, commence maintenant la vie d'écrivaine, d'autrice, pardon, et de romancière.
Ça marche aussi, écrivaine, voilà. Ouais, Michel. Ouais, ouais.
Donc, tu as fait tes premiers salons, hein. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté de la table ?
Eh bien oui, j'ai fait un salon à Grenoble, celui d'Attigna, hein, tout près de chez nous, mm-hmm, et en Haute-Savoie, là, récemment. Eh bien, c'est un côté vraiment très chouette, car les gens viennent nous voir, posent des questions, s'intéressent. Voilà, mais après, je me rends bien compte, hein, que pour ceux qui viennent dans les salons de livres, il y a tellement de sollicitations. On est à chaque fois entre 50, 80, 100 auteurs à présenter nos livres. Donc voilà, on leur en met plein la tête aussi. Donc c'est pas simple. Moi, je suis quelqu'un, encore une fois, d'assez discret et me mettre en avant, c'est tout un exercice de vendre quelque chose. C'est pas mon métier, je suis pas commerciale, pas vendeuse. Donc il faut que je prenne un peu sur moi quand même pour vendre. Mais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est pas si facile en fait.
C'est facile d'aborder les personnes qui passent devant, hein, enfin, ou de ne pas les aborder.
Ah non,
ou...
c'est très dur. Hein,
c'est horrible, non ?
Ah, c'est oui, tout à fait. Et puis il y a ceux qui font un grand détour, ceux qui baissent la tête, et puis il y a ceux qui viennent vraiment. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu une petite idée, j'ai mis des petits drapeaux du Québec devant mon stand, et du Canada. Comme ça, ceux qui ont voyagé là-bas ou ceux qui ont de la famille là-bas, ils viennent me parler du Québec, du Canada. Donc ça m'aide à enclencher après la discussion sur mon livre.
Alors, on t'a vu récemment donc, du côté de Tossia avec l'association France-Québec, qui a un prix littéraire décerné par les lectrices et les lecteurs. Alors, donc, tu es venu leur présenter ton livre.
Voilà,
comment ça s'est passé ? Ouais.
Je les ai contactés, tout à fait.
Suite à nos conseils.
Suite à de très bons conseils.
Notre réunion d'un soir.
De personnes très intéressantes et très qui ont beaucoup de contacts.
Donc tout de suite.
Et ben voilà, ils m'ont répondu que pas de souci de se rencontrer et que justement mon mail arrivait juste avant une réunion qu'ils avaient, donc ceux qui faisaient partie du club lecture, pour décerner ce prix littéraire France-Québec, et ils se retrouvaient à la bibliothèque de Tossia. Et ils m'ont invité à aller là-bas. Donc, ils ont parlé des trois romans en lice, qui sont toujours pour décerner le prix littéraire. Et j'ai pu présenter le mien. Donc, il y avait une quinzaine de personnes quand même, et que des gens qui aiment le Québec. Donc, du coup, c'était un peu en terrain conquis. C'était assez agréable de parler à des gens qui s'intéressent à cette région-là, en tout cas. Donc, c'était une bonne soirée, une chouette rencontre, cette association à Québec.
Ouais. Pas uniquement parce que l'ancienne coprésidente était notre coprésidente également, Marie.
Il y a des liens avec Radio B,
Marie,
je crois.
Hein. Bah oui, depuis longtemps. Alors, donc, toi, est-ce que tu es attachée aux prix, aux distinctions et autres reconnaissances d'un jour, finalement ?
Alors,
bien sûr.
Bien sûr, évidemment, d'avoir le prix Goncourt, voilà, je suis prête pour l'année prochaine, parce que là, on vient me siffler le prix, là, pas eu le temps de...
Jean-Baptiste Andréa, veillez sur elle, en plus, je vous le recommande, parce que...
Mais voilà, et je salue Jean-Baptiste, bravo à lui, il était...
voilà.
Bon, mais du coup, le prix, je crois pas, je ne sais pas d'ailleurs comment on s'inscrit pour un prix littéraire, mais en fait, j'aimerais bien, là, actuellement, parce qu'avoir quand même une critique littéraire de quelqu'un dont c'est le métier, pour voir vraiment ce que vaut mon livre... Voilà, par un critique littéraire, mais je cherche, voilà, parce qu'ils reçoivent tellement de sollicitations, des livres, ils doivent en avoir une dizaine par semaine, qu'ils reçoivent, voire si ce n'est pas une cinquantaine d'ailleurs.
Ouais.
Et voilà, pour que Lettres anonymes de Villebrune arrive en haut de leur pile, je ne sais pas comment faire, parce que je n'ai pas un gros éditeur qui pousse derrière, on va dire.
Alors, lorsqu'on a goûté à l'écriture d'un premier roman, on a forcément envie d'en écrire un deuxième ? Enfin, forcément envie, non, je ne sais pas, oui.
Si, tout à fait. Ça donne très envie de repartir dans une grande histoire et de se replonger dans parce que ça prend des mois à écrire un roman. Donc voilà, de se replonger dans une grande histoire. Mais encore une fois, vraiment, il faut du temps dans la tête, du temps concrètement sur le papier aussi, dans l'emploi du temps. Ce que je n'ai pas. Mais voilà, peut-être que si j'arrête mes chroniques sur Radio B, ça me fera un petit peu de temps, mais c'est des choses à laquelle je tiens. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, mon travail, les enfants, la famille, les amis, les sorties. Donc ça prend du temps d'écrire un roman. Et comme j'ai aussi besoin de dormir des fois, j'essaye de l'enlever, ça, mais ça ne marche pas longtemps.
Y aura-t-il forcément une suite à Lettres anonymes de Villebrune ?
Non, je pense pas. Parce que je crois qu'on fait un peu le tour aussi d'une époque, enfin peut-être plus tard, mais là vraiment si je repars, et j'ai déjà beaucoup d'idées d'autres scénarios, d'autres romans, hein, et ben non, ça se passe pas du tout au même endroit, pas du tout à la même époque. Non, j'aime bien changer, moi j'aime bien le changement, et voilà, là c'est...
Ouais. Bien. Alors tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces et les auteurs de chevet. Il est l'heure, il nous reste un tout petit peu de temps, de passer à la rubrique quatrième de couverture. À tout de suite.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont rapidement nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Mathilde, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Eh bien, je peux vous parler du livre que j'ai fini il y a une semaine. Du coup, c'est celui de Véronique Ovaldé, du coup, Fille en colère sur banc de pierre. C'est son dernier roman. Et je l'ai trouvé très intéressant quand on est auteur, notamment. C'est sa façon dont elle a construit aussi son roman. Parce qu'il y a un narrateur omniscient qui nous prend à part, nous lecteurs, par moments. Il nous dit, plutôt avec ironie, avec humour, qui décale l'histoire même de ces quatre sœurs qui vivent sur une île italienne, dont la dernière a disparu toute petite, et ça laisse des grands, voilà, un grand traumatisme dans cette famille. Et à ce moment où le père, donc le grand patriarche de cette famille, décède, et la troisième des filles revient sur cette île où elle n'était pas venue depuis une vingtaine d'années. Elle était partie adolescente, et là elle revient parce que son papa est mort. Mais voilà, cette façon dont Véronique Ovaldé traite ses personnages, cette façon dont... Voilà, elle fait le distinguo entre le lecteur et les personnages, comme s'il y avait une discussion entre les deux, et était très intéressante. Mais j'ai lu des critiques où ça n'a pas du tout plu à certaines personnes aussi. Donc c'est un parti pris qu'elle a assez voilà, courageux, mais je crois que c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux.
Ben oui.
Donc c'était très intéressant, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, ouais, Fille en colère sur banc de pierre.
Bien. Côté sortie, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, rappelons peut-être la sortie du livre du Burgien de naissance Antoine Renan, avec l'Empathie 2, hein, la suite de l'Empathie, le roman qu'il a révélé en 2019, le deuxième polar de Denis Nicolaï, Toussaint, que j'accueillerai le jeudi 21 décembre, le dernier polar de Florence Frégin, Schneider et la femme du Rhône, que j'accueillerai le 7 décembre. Le nouveau roman d'Yvan Strelzig, Mémoire du comte V. Sans oublier le deuxième roman de la burgienne de cœur, Anouk Letchik, Copeau de bois. Voilà, carnet d'une apprentie bûcheronne que j'espère accueillir en 2024 dans les studios de Radio B. Pour terminer l'émission, alors moi j'ai quelques dates de séances dédicaces. Bon, c'est pas forcément la saison. Le vendredi 17 novembre à la bibliothèque de Charlie, il y aura Grégoire Godino et Claudie Wettervald à partir de 19h. Et puis jeudi 23 novembre à la librairie des Maria à Villefranche-sur-Saône, il y aura Sylvie Calais et Jean-Louis Nougaro. Voilà. Mathilde, on te retrouve bientôt pour une séance de dédicace. Quand même, je n'allais pas ne pas poser la question, Mathilde. Alors, oui, alors.
Eh bien, moi, du coup, je serai au marché de Noël à Attignal du Clos des Écuets, qui est le 25 novembre.
D'accord.
Voilà. Et sinon, je serai à la bibliothèque de Buellas aussi, mais le 25 novembre matin. Donc, j'ai une grosse journée.
Le 25 novembre.
Ouais.
C'est un samedi.
Un samedi. Et après, sur 2024, je crois, à Amberieux. Et Villefranche aussi.
Bon, tu vas nous les communiquer, on pourra annoncer
dans
les prochaines émissions.
Oui, il y a des réseaux sociaux faits pour ça, comme ça.
Voilà,
pour...
voilà, bien. Eh bien, roman de gare, oui, c'est terminé pour aujourd'hui, ça va trop vite, hein, je trouve. Merci Mathilde Duchosal d'avoir essuyé les plâtres de cette nouvelle émission.
Très bien, c'était parfait.
Bien.
Un vrai plaisir, cette...
Bien, plaisir partagé. Rappelons que ton premier roman, Lettre anonyme de Villebrune, est sorti le 7 septembre 2023 aux éditions Tote. On peut se procurer où ?
Alors, sur Internet, ça c'est facile, sur le site de la FNAC, sur le site de mon éditeur, et sinon en librairie à Montbarbon qui a mon livre, la FNAC aussi de Bourg-en-Bresse, le Bar à Création qui l'a, et voilà, ceux qui me connaissent, on peut toujours passer par moi aussi.
Ouais. On te retrouve donc aussi les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois sur les ondes de Radio B, dans ta chronique, un pas de côté sur l'actualité
à 7h55, 8h55 et 12h55. Et d'ailleurs, nous sommes le deuxième jeudi du mois. Ce matin, je crois que j'étais déjà sur Radio B.
Eh oui, semaine.
Eh oui.
Voilà, non, jeudi, Mathilde Duchosal.
Voilà, c'est le jeudi. Voilà. On m'a entendu sur les 90 FM.
Voilà. Alors, on te retrouve donc, sans oublier les réseaux sociaux, évidemment.
Oui, hein, évidemment.
Forcément.
Ou malheureusement, difficile de passer
à côté. Ouais, bah oui. Le prochain invité de Roman de Gare, jeudi 23 novembre 2023 à 18h30, sera le romancier breton de cœur et désormais francilien Gwenaël Le Gallec. Il nous présentera sa trilogie entre polar et thriller, entamée en 2019 avec Armorican Psycho et achevée en 2023 avec Nous sommes la nuit. Nous suivrons les aventures à travers le monde de Yoran Roscoe, un photographe solitaire percevant le monde qui l'entoure en nuances de noir et blanc. Figure-toi, puisqu'il est atteint d'une maladie rare, l'achromatopsie.
D'accord, eh ben oui. On connaît plus ceux qui ont aussi des soucis visuels, mais celle-là de chromatopsie, c'est pas si courant que ça.
Voilà, Mathilde, bonne chance pour la suite de tes aventures d'autrice.
Merci beaucoup.
Et de romancière. Bonne lecture, bonne chronique sur nos ondes et à bientôt sur Radio B.
À bientôt, à merci bientôt. Beaucoup.
Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles, que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille, j'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. J'accasse ta voix basse, dès que j'ouvre mon bouquin, je délivre de leurs livres des héros, des vauriens, qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin, ils me choquent, m'interloquent.